Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 24 juillet 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Quelles sont les nouvelles, et c'est la question que je te pose à chaque semaine, la même, les nouvelles financières qui ont retenu ton attention dans la dernière semaine?
Bien, je pense que la nouvelle la plus marquante cette semaine, bien, c'est le fait que Joe Biden a choisi de se retirer de la course à la présidence américaine. Et Kamala Harris a été très rapidement choisie comme déléguée démocrate. Donc ça, c'est quand même un changement qui est notable. Et initialement, il y a quelques semaines, on disait, bon, elle a comme aucune chance. Et là, finalement, c'est pas mal 50-50. Là. Donc ça va être une course pas mal plus intéressante que ce qu'on pensait.
Puis Kamala Harris, qui a un lien avec Montréal, là.
Effectivement, parle-nous de ce lien-là.
Ben oui, mais j'ai une sœur puis un frère qui sont allés à l'école Westmount High School,
ouais.
Et donc à Westmount, et Kamala Harris, elle a aussi fréquenté cette école.
Exact, donc Kamala Harris a étudié à Montréal étant plus jeune au secondaire. Au niveau des nouvelles financières, donc on sait qu'aujourd'hui la Banque du Canada va parler de taux d'intérêt. En grande majorité, on s'attend à une baisse d'un quart de point, donc on verra. On est ce matin à 7h, l'annonce est vers 10h et le podcast va être publié juste demain. Donc espérons qu'on aura raison, on déclare que la Banque du Canada va baisser les taux d'un quart et on verra comment ça, cette prédiction-là va vieillir demain au moment de publier. Hier soir, on a eu des résultats financiers de Google, Tesla et le CN. Donc, Google a quand même très bien fait. Par contre, les revenus de publicité de la division YouTube ont déçu. Donc, l'action baisse marginalement ce matin. Mais overall, là, les performances financières de la compagnie ont été très bonnes. Ce n'est pas le cas de Tesla, qui a eu des résultats très décevants. Et l'action là, perd plus d'une vingtaine de dollars ce matin. Le CN, c'est un peu plus mitigé, c'est-à-dire que les ventes ont bien fait, par contre, les profits n'ont pas bien fait. Puis ils ont aussi annoncé là, que les bénéfices vont être moins élevés que prévu pour l'année, surtout en raison des dépassements de coûts, des problèmes de vélocité sur les rails. Là. Donc, c'est-à-dire que les wagons peuvent moins bien circuler quand il y a des feux de forêt ou des grèves ou des trucs comme ça là, qui sont quand même hors de leur contrôle. Donc, pas majeur, mais quand même là, une situation un peu décevante. Il y a certains titres qui ont encore fait des nouveaux sommets cette semaine, des titres que beaucoup de nos clients détiennent, Stella Jones, Savaria, Waste Connection, Brookfield Corp, Dollarama. L'indice des actions privilégiées aussi là, a atteint un nouveau sommet. Donc, comment ça se traduit sur l'ensemble des bourses? Malheureusement, cette semaine, les marchés sont négatifs, surtout au niveau américain, une baisse de 2,8 sur le Nasdaq, 2% sur le S&P 500. Au Canada, un peu moins pire, moins 0,8. On est quand même en territoire positif pour le mois. Les taux d'intérêt ont remonté marginalement, là, une petite affaire. Alors, les taux d'intérêt sur les obligations gouvernementales 10 ans, tant au Canada qu'aux États-Unis. On verra l'impact, la baisse de la Banque du Canada, là, si ça aura un impact sur les obligations. Puis on sait que c'est souvent plus le commentaire du gouverneur qui a un impact que le mouvement lui-même qui est très, très anticipé par le marché. Dollar canadien, 72,5, donc légère baisse là, d'à peu près 1 cent depuis le début du mois. On s'en va en vacances dans quelques semaines, Sarah, donc ça va nous coûter un petit peu plus cher d'aller en vacances, malheureusement. Par contre, le pétrole est moins cher, donc peut-être qu'on va avoir une économie à la pompe à 77,50 le baril versus 81 au début du mois. Donc, ça fait le tour pas mal des nouvelles financières là, qui ont retenu l'attention cette semaine.
Bien, merci beaucoup, Martin. Au Québec, 40 % des couples vivent en union parentale. Donc, malgré une importante augmentation des couples en union de fait dans la province, la dernière réforme du droit de la famille remonte aux années 80. Donc, c'est pas mal incroyable. Ouais. Alors, il est important de clarifier lorsqu'il y a des changements, lorsqu'il y a des nouvelles lois qui rentrent en vigueur et qui viennent affecter de manière importante la gestion de patrimoine familial de plusieurs. Donc, il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur. À compter du 30 juin 2025, tout couple en union de fait qui accueillera un nouvel enfant adopté ou naturel sera automatiquement affecté à ce nouveau régime. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de vraiment décortiquer tout ça ensemble. C'est dommage parce qu'on fait ça le 24 juillet, c'est l'été, tout le monde est sur le bord de la piscine ou en vacances, mais nos balados sont toujours disponibles, donc on peut retourner sur Spotify si on veut prendre plus d'informations. Donc, premièrement, Martin, peux-tu nous expliquer plus en détail comment est-ce que l'union parentale va affecter les gens?
Ouais. Il y a deux sujets qui passionnent un planificateur financier, c'est l'impôt puis le droit matrimonial. Donc, l'union parentale, c'est un peu le penchant du patrimoine familial pour les couples mariés. Donc, on sait que les couples en union de fait qui avaient des enfants, ben ils étaient quand même pas reconnus. Ils étaient reconnus au niveau fiscal, là, mais en cas de séparation, ben c'était chacun ses affaires, puis il n'y avait pas de partage de patrimoine. Donc, la loi vient instaurer l'union parentale, c'est-à-dire qu'on va... C'est un statut de droit de type matrimonial. Là. Concrètement, on vient créer un patrimoine d'union parentale. Ça s'applique automatiquement aux conjoints dont un enfant va naître de leur union après le 25 juin. Donc, l'union parentale débute le 30 juin,
okay.
Mais si l'enfant est né après le 25 juin, donc il y a comme une zone de 4 jours où l'enfant y est né, mais je ne suis pas sujet, mais 4 jours après, je suis sujet.
Donc, les femmes doivent se retenir.
C'est ça. Donc, après le 25 juin 2025. Si l'enfant y est né avant, on n'est pas touché par ça. Si tous les enfants... Si j'ai des enfants avant, puis là, j'en ai un autre après, on est sujet à l'union parentale. Donc, les parents dont les enfants sont nés avant, ils pourraient choisir de s'assujettir volontairement à l'union parentale. Par contre, et puis ils pourraient aussi, en s'assujettissant volontairement à l'union parentale, ils pourraient à ce moment-là choisir d'exclure certains biens ou de s'exclure de l'application de l'union parentale, mais pas de l'union parentale elle-même. Donc, on serait quand même en union parentale, mais on pourrait choisir de s'exclure de son application en cas de séparation. Donc, c'est vraiment un changement majeur pour beaucoup de couples au Québec qui, des fois volontairement ou non, là, des fois c'est juste parce qu'on prend pas le temps d'aller se marier, mettons, mais il y en a que c'est quand même par choix de dire « non, c'est chacun nos affaires ». Ben là, il y a des biens qui seront partageables en cas de rupture de l'union parentale.
Donc, quelles sont les nouvelles dispositions de la loi 56? Comment ces changements affecteront le patrimoine de couple en union parentale?
Ouais, donc, comment ça va affecter, c'est vraiment par la création du patrimoine d'union parentale. Donc, c'est quoi les biens qui sont inscrits dans le patrimoine d'union parentale? Donc, c'est les résidences et les meubles qui les ornent. Donc, les résidences, ça inclut le chalet, le camp de chasse, le condo en Floride, le camper qu'on va au camping à chaque année. Donc, initialement, dans le projet, c'était la résidence principale et le texte a été changé pour les résidences, donc toutes les résidences qui servent à la famille. Les véhicules qui servent à la famille, ça l'exclut par contre les biens propres. Donc, un bien propre, c'est un bien qui nous vient d'un don, par exemple, d'un parent ou d'un héritage. Quel bien n'est pas inclus dans l'union parentale, mais qui est inclus dans le patrimoine familial des couples mariés? Les régimes de retraite. Donc, moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est l'absence des régimes de retraite dans l'union parentale. Donc, votre REER, votre fonds de pension, même en union parentale, n'est pas inclus. C'est simplement la valeur de la résidence, des véhicules, des meubles qui vont s'accroître dans le temps qui est partageable.
Mais les fonds de pension, ils ont leur loi propre. De toute façon. Hein?
Exactement. Donc, les régimes complémentaires de retraite, donc si je suis en union de fait puis je prends ma retraite, ben j'ai automatiquement mon conjoint, même si on n'est pas marié, mon conjoint est le bénéficiaire, mais en cas de décès, là, en cas de séparation, chacun garde ses biens quand même.
On ne souhaite jamais que ça arrive. Tu as parlé de séparation. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui arrive lors d'une séparation?
Ben, dans le cas de séparation, donc avant, ben chacun partait. Là, peut-être qu'on pouvait avoir certaines conversations sur c'est qui a payé le divan puis qui a acheté la TV. Là, maintenant, ben c'est tout va être partageable moitié-moitié. Donc, tous les biens qui sont acquis durant l'union parentale, peu importe qui les a payés, c'est un bien qui est partageable en cas de séparation. Les biens qui étaient détenus avant l'application de l'union, donc, tu sais, le 30 juin 2025, là, faites un inventaire de la maison puis commencez à noter, bon, ben moi, j'ai acheté ci, toi, t'as acheté ça. C'est triste, là, mais le planificateur financier en moi va vous dire que c'est ça qu'on devrait faire. Combien, pour quel pourcentage des couples au Québec vont le faire? Pas sûr que ça va être très élevé, mais en principe,
on devrait faire ça. Ça dépend de votre relation. Donc, ça, c'est toujours la job qu'on a à faire dans notre métier, c'est lever les drapeaux. Mais vous prenez des décisions en tant que couple et vous vivez avec les décisions.
100%. Donc, nous, on parle de la loi qui n'a pas d'émotion, puis ensuite, les couples sont libres de gérer leur truc comme ils le veulent. Fait que vraiment, les biens donc, que je possédais, si j'étais propriétaire de la maison, puis là, t'emménages chez nous, c'est ma maison, c'était ma maison à 100%, elle demande ma maison à 100%. Par contre, on vend la maison, on en achète une nouvelle, puis là, on est 50-50 sur la nouvelle. Même si c'est moi qui fais le paiement hypothécaire, c'est l'union, la maison a été acquise durant l'union parentale et donc la plus-value sera partageable, sera exclue la valeur de ma partie que je détenais avant. Donc, il y a vraiment, là, on va faire un inventaire des biens au 30 juin 2025, et si je détenais des actifs, ce sera exclu du patrimoine ou du partage de l'union parentale.
Puis la réalité, c'est que les discussions difficiles dans une famille, dans un couple, c'est souvent les meilleures discussions. Il faut les avoir. Donc, ayez pas peur, ça ne va pas dire que vous allez vous séparer ou que le malheur va tomber sur vous, mais ça vaut la peine d'avoir la discussion.
C'est plus facile d'avoir la conversation quand l'ambiance est bonne qu'en période de séparation. Des fois, ça s'envenime un peu.
Exactement. Et finalement, qu'est-ce qui arrive au moment du décès?
Situation un peu triste, si on est en union parentale, on est en couple, on est conjoint de fait, puis après le 25 juin, on a un enfant, et malheureusement, cet enfant-là décède. On est quand même en union parentale, même si l'enfant qui a créé l'union parentale décède, l'union parentale demeure. Alors, si on continue notre bout de chemin pendant 5-10 ans, puis on se sépare, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de nouveaux enfants, on est quand même assujetti à l'union parentale. Donc ça aussi, c'est un détail de la loi qui m'a un peu marqué. En cas de décès, donc il faut comprendre que la loi, un peu bêtement, là, présume qu'on s'est divorcé immédiatement avant de décéder. Sans égard au testament, donc avant de décéder, on doit d'abord partager les biens de l'union parentale et ensuite le testament s'applique au décès. Donc, si j'ai au décès, Sarah, on est mariés, là, mais présumons qu'on est en union parentale, tu décèdes puis toi, tu as légué la maison à quelqu'un d'autre. La maison, elle m'appartient de l'union parentale, donc ma portion, donc elle me revient à moi, puis après, le partage des biens, des biens se fait. Très important aussi, et ça, c'est un autre changement qui est majeur. On disait dans le passé, si on décède sans testament, le conjoint de fait n'existait pas dans le code civil au niveau de la loi qui concerne les décès. Donc, si je décédais, automatiquement, le parent décédé, tout revenait aux enfants, puis le conjoint, il n'y avait rien du tout. Maintenant, le parent en union parentale est reconnu comme un héritier légal en bonne et due forme en l'absence de testament. On rappelle que dans la présence d'un testament, c'est le testament qui s'applique. Donc, le partage, automatiquement, on peut nommer qui on veut, mais évidemment, le partage de l'union parentale va s'appliquer. Donc, ça aussi, c'est un item très important. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Malheureusement, là, on a beau taper sur le clou constamment, il y a plein de monde qui n'ont pas de testament, qui sont en union de fait, qui ont des enfants. Est-ce que ça règle le problème des couples qui ont 45 ans, un paquet d'enfants, de plus vieux? S'ils n'ont pas d'enfants après le 25 juin, ils ne sont pas dans l'union parentale. Donc, le parent, il n'est toujours pas inclus dans le testament. Alors, ce n'est pas parce que cette loi-là rentre en vigueur. On est uniquement assujetti à l'union parentale si un enfant naît de notre couple après le 25 juin. Si l'enfant est né avant, on n'est toujours pas en union parentale et donc je n'existe toujours pas dans le testament de ma conjointe de fait, le co-égère.
Donc, deux choses à rappeler. On dit toujours, c'est mieux d'avoir un testament.
Ouais.
Donc, on vous encourage fortement à penser à qu'est-ce que vous désirez et avoir un testament. Aussi, deuxième chose à rappeler, c'est que chez Valeurs Mobilières Desjardins, on a accès à des spécialistes.
Ouais.
Donc, on a accès à un service d'analyse testamentaire. Nos notaires ne vont pas écrire les testaments de nos clients, mais ils sont là pour consultation.
Ouais.
Et c'est inclus dans les honoraires et les frais payé par nos clients.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un super service. On vous encourage à nous en parler et on peut arranger cette consultation-là.
Ouais.
Merci beaucoup, Martin, pour le balado aujourd'hui et la recherche qui a été faite. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado, laissez-nous savoir. Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions et surtout vos objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.